Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis. À demain, pour nous c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20 commence comme il se doit avec le premier grand journal de la soirée présenté par Sébastien Logeni. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence avec une demande de pardon.
Formulée aujourd'hui par le chef de l'État à l'égard des 800 000 harkis, Emmanuel Macron qui promet une loi de reconnaissance et de réparation, une annonce très attendue par les associations. Le récit de ce discours historique et la réaction de l'historien Benjamin Stora. Une vidéo difficilement supportable au procès des attentats du 13 novembre. On y voit les terroristes du commando tirer sur la terrasse du bar de la Belle Équipe. Des attaques qu'une fois encore, le principal accusé Salah Abdeslam a cherché à justifier. Compte rendu d'audience à suivre. À suivre également quand la Chine veut faire croire que le coronavirus est d'origine américaine. Décryptage d'une opération de désinformation mondiale. Les agents du service public déplorent une perte de sens dans leur travail. Et puis les vignobles de la Loire qui manquent de bras pour leur vendange.
À 18h15, un jour dans le monde, il va être sympa le jeu de cache-cache à l'Assemblée Générale des Nations Unies entre Français et Américains qui officiellement sont très fâchés depuis l'histoire des sous-marins. C'est sur cette brouille que l'on revient ce soir avec Bertrand Badie. Son long terme, ce qu'elle nous a déjà enseigné. On verra aussi d'ailleurs, vous en parliez à l'instant Sébastien, ce que ça nous dit de la Chine dont les réseaux d'influence sont révélés dans le rapport dont vous parlerez. 19h20, le téléphone sonne. Les vaccinés, comptez-vous 50 millions de premières doses, que ce soit avec enthousiasme ou contraint et forcé. Notre vaccination est championne, ok, mais qu'est-ce qu'on fait de ce chiffre désormais? Est-ce qu'on peut imaginer de plus grandes libertés sans le masque? Est-ce qu'on verra disparaître le pass sanitaire? La vie normale, c'est pour quand? Et d'ailleurs, c'est quoi réellement la vie normale? On en parle ce soir avec Alain Fischer, l'homme de la stratégie vaccinale. À vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc une parole qui était attendue depuis 60 ans.
Depuis la fin de la guerre d'Algérie, les harkis auxiliaires de l'armée française pendant tout le conflit, transférés en France dans des camps indignes ou laissés sur place, victimes de représailles, ils se sentaient abandonnés des pouvoirs publics français. Et aujourd'hui, donc presque 60 ans après les accords d'Évian, le chef de l'État a décidé de mettre des mots très forts sur ces blessures. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Emmanuel Macron a reçu ce matin à l'Élysée 300 représentants de cette communauté. Le président qu'il aura demandé pardon au nom de la nation.
Et c'est la première fois que le chef de l'État déroge à sa ligne maintes fois répétée, ne jamais tomber dans le piège, disaient ses conseillers, le piège de la repentance.
Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Nous n'oublierons pas.
Ces mots, jamais Emmanuel Macron ne les avait prononcés, ni pour l'Algérie, ni pour le Rwanda, ni pour les essais nucléaires en Polynésie. Mais c'était un impératif moral, explique l'Élysée, non seulement pour les harkis, mais aussi pour l'idée que l'on se fait de la France.
Comment il est blessé, mon cœur ? Mais je le sais.
Il faut dire que les plaies sont toujours à vif, comme celle de cette femme que l'on entend, une enfant du camp de Bias, qui interrompt le discours du président de la République. Incident inédit sous les dorures du palais pour crier sa douleur.
Il n'y a aucun mot qui réparera vos brûlures et ce que vous avez vécu. Mais il n'y en a aucun, madame. Vous avez raison.
Au-delà des mots, Emmanuel Macron accède donc à une demande essentielle, une loi de reconnaissance et de réparation. Dalila Kerchouche est journaliste et fille de Harki.
C'est un pas historique. Pour la première fois, j'ai le sentiment profond qu'un président de la République a compris la gravité de ce drame.
Une loi dont l'Élysée espère qu'elle sera votée avant la fin du quinquennat. La droite et l'extrême droite qui ont toujours courtisé l'électorat harki ne manque pas ce soir de dénoncer une générosité électorale.
Simon Le Baron du service politique de France Inter, merci. Aucune estimation, précisons-le, des demandes de réparation des anciens combattants, de leurs enfants ou de leurs petits-enfants n'a été faite à ce stade. On l'entendait, c'est donc la première fois que le chef de l'État prononce le mot de pardon dans un dossier mémoriel aussi brûlant. Un pas franchi dans la reconnaissance des responsabilités de l'État français. Écoutez la réaction de l'historien Benjamin Stora.
Le pardon, c'est très important parce que c'est pas simplement une forme de reconnaissance, mais une forme d'excuse aussi par rapport à ce qui a été fait. C'est la première fois, à ma connaissance, que de manière publique, un président de la République s'engage sur ce chemin. Il s'agit tout simplement d'essayer de réparer une faute morale. Il y a déjà eu, de la part d'Emmanuel Macron, des formulations de la demande de pardon, notamment lorsqu'il s'est rendu au domicile de Madame Josette Audin, dont le mari mathématicien avait été enlevé et assassiné en 1957. Ce mot, il l'a prononcé également en privé, et j'étais là aussi, lorsqu'il a reçu les petits-enfants de Ali Boumangel, qui est un militant algérien qui avait été lui aussi assassiné. Et c'était dans le cadre d'une réception à l'Élysée, un cadre privé par conséquent. Là, il s'agit d'autre chose, parce qu'il s'agit d'une réception publique. Et évidemment, ça n'a pas le même cadre, et c'est une grande première, bien sûr, pour un président de la République.
L'historien Benjamin Stora avec Thibault Lefebvre.
À 18h06, Sébastien, ils ont été fauchés en pleine rue dans la soirée du 13 novembre 2015.
De nouvelles scènes effroyables à l'audience du procès des attentats parisiens. La Cour a visionné une nouvelle vidéo aujourd'hui. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir Sébastien.
Une vidéo de quelques dizaines de secondes de l'attentat en terrasse à la Belle Équipe qui a fait au total 21 morts.
Oui, et l'enquêteur à la barre projette sur grand écran 28 secondes d'une vidéo tournée depuis le 6e étage d'un immeuble voisin de la Belle Équipe. Sur l'image, on voit la voiture noire des 3 terroristes, porte ouverte au carrefour. L'un des terroristes a des baskets orange. On en voit 2 tirer à la Kalachnikov, froidement et en rafale, 164 tirs. Les détonations résonnent dans la salle d'audience. On ne peut s'empêcher de sursauter. Puis, l'enquêteur montre les corps des victimes recouverts de draps de toutes les couleurs. Les corps sont enchevêtrés sous les tables du café. L'enquêteur donne le prénom, le nom, l'âge de chaque victime et détaille chaque blessure par balle. Cou, visage, clavicule, abdomen, thorax. Des victimes sont tombées sur le dos, d'autres se sont recroquevillées en position fœtale. Une femme a été retrouvée morte assise, le buste en avant, précise l'enquêteur. Dans la salle d'audience, silence recueilli. Plusieurs parents de victimes décédées fixent l'écran, très digne, autour d'eux des jeunes gens, survivants de la Belle Équipe. Beaucoup y fêtaient un anniversaire avec leurs amis morts ce 13 novembre 2015. Plusieurs se prennent dans les bras discrètement.
À la fin de ce témoignage, Sophie, le principal accusé, Salah Abdeslam, a également demandé à nouveau la parole avec encore des propos provocateurs.
Oui, Salah Abdeslam, masque et blouson noir se lève, lance un « on m'entend », puis un « bonjour à tous », puis il se lance dans une justification des attentats pour se venger des frappes en Syrie. Il clame que les terroristes sont ses frères, se permet d'ajouter « on peut se détester, mais la porte du dialogue doit rester ouverte ». C'est pas en tirant à la Kalachnikov qu'on dialogue. Le couple, le président de la cour d'assises, sur les bancs des parties civiles, on préfère mépriser ces nouvelles déclarations provocatrices de l'accusé Abdeslam. Il ne tuera pas la fraternité, ni la liberté, conclut le père d'une victime.
Sophie Parmentier en direct du Palais de Justice de Paris avec au moyen technique Geoffrey Marianne. Procès retrouvé également sur franceinter.fr. C'est un autre procès pour terrorisme qui se déroulait lui au Rwanda aujourd'hui. Le procès de Paul Rouzet Sabagina, un ancien hôtelier dont l'histoire avait inspiré le film Hôtel Rwanda et qui était devenu l'un des critiques les plus virulents du régime de Paul Kagame. Jugé pour avoir soutenu un groupe rebelle accusé d'attaque meurtrière en 2018, il était condamné à 25 ans de prison. Sa fille dénonce un verdict décidé par le pouvoir rwandais. À l'étranger encore, nous vous parlons depuis ce matin d'une étude inédite sur le réseau tentaculaire mis en place par Pékin à travers la planète. Un rapport de 650 pages effectué par l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, et qui détaille les millions de petites mains payées par le régime chinois pour soutenir sa politique ou pour produire des fake news à l'échelle industrielle. Et parmi ses collaborateurs, il y a ce prétendu scientifique Larry Romanoff à l'origine de l'opération Infection 2.0 qui va inonder la planète de fausses informations sur les origines du coronavirus. Christian Chéneau.
En mars 2020, alors que l'épidémie commence à déferler sur la planète, Pékin allume un contre-feu pour se dédouaner. Des officiels chinois, des articles sur les réseaux sociaux affirment que le Covid-19 ne provient pas de la Chine, mais des États-Unis. Il s'agit en fait d'une opération de désinformation baptisée Infection 2.0 par les auteurs du rapport de l'IRSEM. Pour défendre son argumentation, la propagande chinoise s'appuie sur un site canadien et sur un retraité canadien résident à Shanghai. Un dénommé Larry Romanoff, il est présenté comme un scientifique de renommée mondiale. Il a publié des dizaines d'articles sur Internet sur le Covid qui exemptent la responsabilité de Pékin dans la pandémie. En réalité, selon les auteurs du rapport, Romanoff, qui serait aujourd'hui âgé de 80 ans, n'a rien d'une sommité universitaire. Il existe bel et bien dans la réalité, mais il s'agit d'un homme d'affaires sulfureux qui a eu des démêlés avec la justice de son pays. Dans cette affaire, il aura simplement servi de façade à une opération de fake news téléguidée par Pékin. Dès la fin mars 2020, l'homme disparaissait dans la nature, mais les quelques jours pendant lesquels il a sévi, la thèse de la conspiration a été largement diffusée dans le monde.
Christian Chéneau de la rédaction internationale de Radio France. La Russie secouée par une fusillade sanglante. Aujourd'hui, un étudiant armé d'un fusil a fait 6 morts, 28 blessés dans une université de Perm au centre du pays. L'auteur des tirs a été arrêté. Les Canaries, elles, sont frappées par une importante éruption volcanique sur l'île de la Palma, la première depuis un demi-siècle. Une centaine de maisons ont été dévastées, 5000 personnes évacuées.
Quand le travail des fonctionnaires français tourne à l'absurde.
Oui, c'est une vaste enquête du collectif Nos Services Publics qui nous l'apprend. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
4500 personnes ont été interrogées et pour 80%, elles se déclarent confrontées à une absence de sens dans leur tâche de travail.
Et qu'on évacue la question tout de suite. Arnaud Bontemps pour le collectif Nos Services Publics précise les 18 mois que les agents viennent de traverser, comme le reste des Français, ne sont pas la cause de ce malaise.
Ce que nous racontent les agents, c'est avant tout des problèmes qui existaient bien avant. Quand un agent territorial nous dit que chez lui, la perte de sens, c'est qu'on lui demande des nouveaux projets à l'automne et puis 6 mois plus tard, des nouvelles pistes d'économie, ça n'est pas lié au Covid-19.
Et de citer le témoignage encore de cette professeure d'anglais d'une classe de 35 élèves à qui l'on demande de privilégier l'interaction orale. En tout, vous l'avez dit, 80% des fonctionnaires sondés se disent touchés, je cite, par un sentiment d'absurdité qu'une seule augmentation de salaire ne saurait effacer.
Alors c'est un vrai motif, on ne va pas le nier, mais les problèmes sont beaucoup plus profonds et touchent y compris au sens, à leur capacité à faire leur mission. C'est ça avant tout qui est dénoncé et non pas qu'il n'y ait pas un vrai sujet sur la question de la rémunération, mais il ne sera pas suffisant pour résoudre le mal-être que l'on relève au travers de cette enquête.
Message adressé à la ministre de la Transformation et de la Fonction publique Amélie de Montchalin qui reçoit demain les syndicats pour parler rémunération et négocier des revalorisations salariales. La question du salaire n'apparaît qu'en cinquième position des préoccupations des sondés, loin derrière le manque de moyens.
Maxime Debs du service économique de France Inter. C'est un changement de taille dans la politique sanitaire américaine. Les États-Unis laisseront bientôt tous les voyageurs internationaux entrer sur leur territoire, à condition toutefois d'être vaccinés, d'avoir fait un test 3 jours avant de partir et de porter un masque, un nouveau protocole qui entrera en vigueur début novembre. Au chapitre sanitaire encore, ce communiqué de Pfizer-BioNTech qui ouvre la voie à la vaccination dès l'âge de 5 ans, selon le laboratoire américain allemand, américano-allemand, chez les 4500 participants âgés de 5 à 11 ans. Le vaccin est sûr, bien toléré et présente, je cite, des réponses robustes en anticorps neutralisants. Puis ajoutons qu'en France, la vaccination progresse chez les collégiens et les lycéens. Près de 70% pour la première injection. Information du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Les vignerons de la Loire manquent de bras pour les vendanges.
La récolte a bien commencé il y a 3 jours. Des vendanges plus tardives à cause du gel en avril dernier. Le problème, c'est qu'en cette période de rentrée, eh bien, c'est plus difficile de trouver de la main-d'œuvre. Illustration à Chavanay au domaine Pichon, où s'est rendu Lauriane Avard de France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Ici, on est à peu près à 220 mètres d'altitude, avec des vignes en coteaux et en terrasse.
Alors là, on est sur une parcelle qui est assez réputée d'appellation, hein, c'est le coteau du Colombier, avec des vignes qui ont été plantées fin des années 70, début des années 80.
Christophe Pichon est vigneron et président de l'appellation Condrieu. Lui aussi a perdu pas mal de vendangeurs cette année.
Alors nous, aujourd'hui, on est à peu près une vingtaine de coupeurs. Une exploitation comme la mienne, normalement, c'est 25, donc on va dire qu'il nous manque 5 coupeurs, sachant que fin de semaine prochaine, on va en reperdre 4. Voilà, dans 8 jours, il nous manquera une petite dizaine de personnes.
Pour Christophe Pichon, l'effet Covid est peut-être passé par là, avec cette crainte de se retrouver avec d'autres personnes dans les vignes. Alors lui et ses collègues vignerons ont multiplié les appels sur Facebook et même sur Le Bon Coin.
On n'avait jamais vu ça, parce qu'en fait, on essaye vraiment par tous les moyens de trouver du monde. La récolte, si on ne la fait pas aujourd'hui, on ne la fera pas, excusez-moi le terme, mais à Noël, quoi, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est maintenant qu'on a besoin. Quoi, hein.
Et il est toujours temps de se manifester. Les vendanges doivent durer à peu près jusqu'à mi-octobre.
Lauriane Avard de France Bleu Saint-Étienne-Loire. La commission de discipline de la Ligue de football professionnelle n'a pas traîné. 2 jours seulement après l'invasion de la pelouse de Lille par des supporters lensois, faisant 6 blessés légers, la commission a sanctionné le club de Lens. 8 clos total de son stade à titre conservatoire. Pas de spectateurs donc contre Strasbourg. Strasbourg et contre Reims. Un dernier mot enfin avec ce grand bonheur pour les amateurs d'art et de Picasso en particulier. La fille de Picasso, Maya, vient de léguer au musée parisien 9 nouvelles œuvres inédites du maître. Cela lui permet également de s'acquitter de ses droits de succession en nature. On y revient en détail dans le journal de 19h d'Hélène Philly.
Merci beaucoup Sébastien Legénier.